Chapitre 5. Le lendemain, quand les saltimbanques furent partis avec grand fracas, Mignon se retrouva soudain. Elle entra, comme Wilhelm et Laerte faisaient des armes dans la salle. « Où étais-tu caché ? » lui demanda Wilhelm avec amitié. « Tu nous as donné beaucoup d'inquiétude. » L'enfant ne répondit rien et le regarda. « Tu es à nous maintenant ! » s'écria Laerte. « Nous t'avons acheté. »« Combien as-tu payé ? » demanda-t-elle sèchement. « 100 ducats. Si tu nous les rends, tu seras libre. »«
C'est sans doute beaucoup d'argent. »«
Oh oui, tu n'as qu'à te bien conduire. »«
Je vous servirai, » dit-elle.
Dès cet instant, elle observa soigneusement ce que le garçon avait à faire pour le service des deux amis, et le lendemain, elle ne souffrit déjà plus qu'il entrât dans la chambre. Elle voulut tout faire elle-même, et fit le service en effet. Lentement, il est vrai, et quelquefois maladroitement, mais avec beaucoup de soin et de ponctualité. Elle prenait souvent un vase plein d'eau et se lavait le visage, avec tant de persévérance et de vivacité qu'elle s'écorchait presque les joues. Enfin, Laerte, par ses questions et ses agaceries, reconnut qu'elle s'efforçait, par tous les moyens, d'enlever le fard de ses joues, et que, dans l'ardeur avec laquelle elle y travaillait, elle prenait pour le fard le plus tenace la rougeur qu'elle avait produite par le frottement. On le lui fit comprendre. Elle cessa, et après quelques moments de repos, on lui vit un beau teint brun relevé d'un léger incarnat. Séduit par les grâces frivoles de Philine et la mystérieuse présence de Mignon, plus qu'il n'osait se l'avouer à lui-même, Wilhelm passa quelques jours dans cette singulière société. Il se justifiait à ses propres yeux en s'exerçant avec ardeur à l'escrime et à la danse, qu'il ne croyait pas retrouver aisément l'occasion de cultiver. Il fut bien surpris, et il sentit quelque joie, lorsqu'il vit un jour arriver Monsieur et Madame Mélina, qui, après les premiers compliments, demandèrent des nouvelles de la directrice et des autres acteurs. Ils apprirent, avec une grande consternation, que la directrice était partie depuis longtemps, et que les acteurs s'étaient dispersés à la réserve d'un petit nombre. Après leur mariage, pour lequel Wilhelm avait, comme nous savons, prêté ses bons offices, les jeunes époux avaient cherché en plusieurs lieux un engagement, sans en trouver aucun. Enfin, on leur avait indiqué cette petite ville où quelques personnes qu'ils avaient rencontrées en chemin prétendaient avoir vu un bon théâtre. Quand ils eurent fait connaissance, Philine ne goûta nullement Madame Mélina, ni le vif Laerte son mari. Ils désiraient se voir bien vite délivrés des nouveaux venus, et Wilhelm ne put leur inspirer des sentiments plus favorables, quoiqu'il ne cessât de leur protester que c'était de très bonnes gens. À vrai dire, la joyeuse vie de nos trois aventuriers était troublée, de plus d'une manière, par l'augmentation de la société. Car Mélina, qui avait trouvé place dans l'auberge de Philine, commença d'abord à gronder et marchander. Il voulait avoir, pour peu d'argent, de meilleures chambres, des repas plus copieux et un service plus prompt. L'aubergiste et le garçon ne tardèrent pas à faire piteuse mine. Et tandis que les trois amis, pour vivre gaiement, se contentaient de tout et payaient vite afin de ne plus songer à ce qui était consommé, il fallait chaque fois récapituler, tout entier, le repas, que Mélina vérifiait aussitôt régulièrement, en sorte que Philine l'appelait sans façon un animal ruminant. Madame était encore plus odieuse à la rusée comédienne. Cette jeune femme n'était pas sans éducation, mais ce qui lui manquait tout à fait, c'était l'âme et l'esprit. Elle ne déclamait pas mal et voulait toujours déclamer, mais on observait bientôt que ce n'était qu'une éloquence de mots, qui appuyait sur certains endroits et n'exprimait pas le sentiment de l'ensemble. Avec tout cela, elle n'était point désagréable, surtout aux hommes. Même ceux qui étaient liés avec elle lui attribuaient une belle intelligence. C'est qu'elle était, j'oserais dire, une enjôleuse sentimentale. Elle savait flatter, par une attention particulière, un ami dont elle avait besoin de gagner l'estime. Elle entrait dans ses idées aussi avant que possible, et, dès qu'elle dépassait sa portée, elle accueillait avec extase cette apparition nouvelle. Elle savait parler et se taire, et, sans avoir le cœur perfide, épiait soigneusement le côté faible de chacun. Chapitre 6. Cependant, Mélina avait pris des informations exactes sur ce qu'étaient devenus les débris de la direction précédente. Les décorations et la garde-robe étaient en gage chez quelques marchands, et un notaire avait reçu de la directrice la commission de les vendre, à certaines conditions, s'il se trouvait des amateurs. Mélina voulut voir ce mobilier et mena Wilhelm avec lui. Lorsqu'on leur ouvrit les chambres, notre ami éprouva un certain plaisir qu'il ne s'avouait pas à lui-même. En si mauvais état que fussent les décorations barbouillées, et si chétive que fût l'apparence des costumes turcs et païens, de ces vieilles guenilles pour hommes et pour femmes, ces robes de magiciens, de juifs et de moines, il ne put s'empêcher d'être ému, à la pensée que c'était au milieu d'une pareille friperie qu'il avait passé les plus heureux moments de sa vie. Si Mélina avait pu lire dans son cœur, il l'aurait pressé plus vivement de lui avancer une somme d'argent pour dégager, réparer ses membres épars, leur rendre une vie nouvelle et en recomposer un bel ensemble. « Quel homme heureux je pourrais être !» s'écria Mélina. « Si j'avais seulement 200 écus pour commencer par faire l'acquisition de ce premier fonds de théâtre, que j'aurais vite monté un petit spectacle qui suffirait assurément à nous faire vivre dans cette ville, dans ce pays. » Wilhelm garda le silence et ils quittèrent tous deux, en rêvant, ces trésors que l'on remit sous clé. Depuis ce jour, Mélina ne parla plus que de projets et de propositions sur les moyens d'établir un théâtre et d'y trouver son avantage. Il cherchait à intéresser Philine et Laerte, et il proposait à Wilhelm d'avancer de l'argent contre des garanties. Mais, à cette occasion, il s'avisa tout à coup qu'il n'aurait pas dû s'arrêter si longtemps en ce lieu. Il s'excusa et voulut se préparer à poursuivre son voyage. Cependant, la figure et le caractère de Mignon avaient toujours plus de charme pour lui. Cet enfant avait, dans toutes ses actions, quelque chose d'étrange. Elle ne montait, ne descendait point les degrés. Elle les franchissait d'un bond. Elle courait sur les barrières des corridors, et, avant qu'on s'en fût avisé, elle s'asseyait sur l'armoire et demeurait quelques moments immobile. Wilhelm avait aussi remarqué qu'elle avait pour chaque personne une manière particulière de saluer. Depuis quelque temps, elle le saluait lui-même en croisant les bras sur sa poitrine. Souvent, elle était complètement muette. Parfois, elle répondait à différentes questions, toujours d'une manière bizarre, mais sans que l'on pût distinguer si c'était des saillies ou l'ignorance de la langue, car elle parlait un mauvais allemand, entremêlé de français et d'italien. Dans son service, elle était infatigable, élevée avec le soleil. Mais le soir, elle disparaissait de bonne heure, dormait dans quelque chambre, sur le plancher, et l'on ne put lui faire accepter un lit ou une paillasse. Wilhelm la trouvait fréquemment occupée à se laver. Ses habits étaient propres, quoique souvent cousus et recousus. On lui dit aussi qu'elle allait tous les jours à la messe de grand matin. Il la suivit une fois et la vit s'agenouiller dans le coin de l'église avec son rosaire et prier avec ferveur. Elle ne l'aperçut point. Il revint au logis en faisant mille conjectures sur cet enfant extraordinaire et ne savait à quoi s'arrêter. Les nouvelles prières de Mélina de lui prêter une somme d'argent pour dégager le matériel de théâtre décidèrent toujours plus Wilhelm à songer au départ. Il voulut écrire le jour même à sa famille qui depuis longtemps n'avait pas eu de ses nouvelles. Il commença en effet une lettre à Werner, et déjà il avait passablement avancé le récit de ses aventures, dans lequel, sans y prendre garde, il s'était plusieurs fois éloigné de la vérité. Lorsqu'en tournant la feuille, il eut le désagrément d'y trouver écrit quelques vers extraits de ses tablettes, dont il avait commencé la copie pour Madame Mélina. Il déchira la feuille avec dépit, et renvoya jusqu'à l'ordinaire suivant la répétition de ses aveux. Chapitre 7. Notre société se trouvait de nouveau réunie, et Philine, qui observait avec la plus vive attention toute voiture et tout cavalier qui passait, s'écria vivement « Notre pédant ! Voici notre aimable pédant ! Mais qui peut-il avoir avec lui ?» Elle appela et fit des signes par la fenêtre, et la voiture s'arrêta. Un pauvre diable, qu'à son habit gris-brun, tout râpé, et à sa chaussure mal conditionnée, on aurait pris pour un de ces maîtres S.A.R. qui moisissent dans les universités, descendit de la voiture, et produisit au jour, en ôtant son chapeau pour saluer Philine, une perruque mal poudrée, mais du reste fort crêpée, et Philine lui jeta sans baiser. Si elle trouvait son bonheur à aimer une partie des hommes et à jouir de leur amour, elle ne goûtait pas moins vivement le plaisir qu'elle se donnait aussi souvent que possible de mystifier d'une façon légère ceux que, pour le moment, elle n'aimait pas. Au milieu du vacarme avec lequel elle reçut ce vieil ami, on oubliait d'observer ses compagnons de voyage. Cependant, Wilhelm crut reconnaître les deux dames et un homme, déjà vieux, qui entrait avec elle. En effet, il se découvrit bientôt qu'il les avait vus souvent tous trois, quelques années auparavant, parmi la troupe qui jouait dans sa ville natale. Les filles avaient grandi depuis lors, mais le père avait peu changé. Il jouait d'ordinaire les vieillards bourrus et bienveillants dont le théâtre allemand n'est pas dépourvu et qu'il n'est pas rare non plus de rencontrer dans la vie ordinaire. Car le caractère de nos compatriotes étant de faire le bien sans beaucoup d'éclat, ils songent rarement qu'il est aussi une manière de le faire avec grâce et délicatesse. Et, poussés par un esprit de contradiction, ils tombent aisément dans le défaut de présenter en contraste, par une humeur grondeuse, leur vertu favorite. Notre comédien jouait fort bien ses rôles, et les jouait si souvent et si exclusivement qu'il en avait pris les allures dans la vie ordinaire. Wilhelm fut saisi d'une grande émotion en le reconnaissant. Il se rappela combien de fois il avait vu cet homme sur le théâtre, à côté de sa chère Marianne. Il entendait encore le vieillard gronder. Il entendait la voix caressante avec laquelle, dans plusieurs de ses rôles, la jeune fille devait répondre à sa brusquerie. On commença par demander vivement au nouveau venu si l'on pourrait trouver ou espérer ailleurs un engagement. La réponse, hélas, fut négative, et l'on eut le regret d'apprendre que les troupes auxquelles on s'était adressé étaient complètes. Quelques-unes même craignaient d'être forcées de se dissoudre, à cause de la guerre dont on était menacé. Le dépit et l'amour du changement avaient fait abandonner au vieux bourru et à ses deux filles un excellent engagement. Il avait rencontré le pédant et loué avec lui une voiture pour se transporter dans cette ville, où ils purent voir qu'on n'était pas moins embarrassé. Tandis que les comédiens s'entretenaient vivement de leurs affaires, Wilhelm restait pensif. Il désirait entretenir le vieillard en particulier. Il désirait et craignait d'apprendre ce que Marianne était devenue, et il se trouvait dans la plus grande inquiétude. La gentillesse des jeunes personnes qui venaient d'arriver ne pouvait le tirer de sa rêverie, mais une dispute qui s'éleva fixa son attention. Frédéric, le petit blondin qui servait Philine, résista cette fois vivement quand il dut mettre la table et servir le repas. « Je me suis engagé à vous servir, lui cria-t-il, mais non pas à servir tout le monde. » Ils entrèrent là-dessus dans un vif débat. Philine lui disait qu'il eut à faire son devoir, et comme il s'y refusait obstinément, elle lui dit sans plus de façon qu'il pouvait aller où il voudrait. « Croyez-vous peut-être que je ne saurais pas me passer de vous ? » s'écria-t-il. Puis il sortit fièrement, fit son paquet et sortit en courant de la maison. « Va, mignon, dit Philine, procure-nous ce qu'il nous faut. Avertis le garçon et tu l'aideras à faire le service. » Mignon s'approcha de Wilhelm et lui dit, dans son style laconique, « Faut-il ? » Et Wilhelm lui répondit, « Mon enfant, fais ce que mademoiselle te commande. » Elle s'occupa de tout, et toute la soirée, elle servit les hôtes avec grand soin. En sortant de table, Wilhelm tâcha de faire avec le vieillard un tour de promenade. Il y réussit, et après diverses questions sur sa vie passée, qui amenèrent la conversation sur l'ancienne troupe, Wilhelm osa enfin lui demander des nouvelles de Marianne. « Ne me parlez pas de cette abominable créature !» s'écria le vieillard. « J'ai juré de ne plus y penser !» Cette exclamation effraya Wilhelm, mais il fut encore dans un plus grand embarras, quand cet homme continua d'invectiver contre la légèreté et le dérèglement de Marianne. Que notre ami aurait volontiers coupé court à l'entretien, mais il lui fallut essuyer les orageux épanchements du bizarre vieillard. « Je rougis, poursuivit-il, de l'avoir tant aimé. Et pourtant, si vous aviez connu particulièrement cette jeune fille, vous m'excuseriez sans doute. Elle était si gracieuse, si naturelle et si bonne, si obligeante, et, à tous égards, si facile. Je n'aurais jamais imaginé que l'impudence et l'ingratitude fussent les traits essentiels de son caractère. » Wilhelm s'était déjà préparé à entendre sur le compte de Marianne les choses les plus graves, quand il remarqua soudain, avec étonnement, que le ton du vieillard se radoucissait, qu'il hésitait, et qu'il tira son mouchoir pour essuyer ses larmes, qui finirent par l'interrompre tout à fait. « Qu'avez-vous ? » s'écria Wilhelm. « Quel sujet donne tout à coup à vos sentiments une direction si opposée ? Ne me cachez rien. Je prends au sort de cette jeune fille plus d'intérêt que vous ne pensez. Que je sache tout. » J'ai peu de choses à dire, reprit le vieillard en revenant au ton sévère et fâché. Je ne lui pardonnerai jamais ce que j'ai souffert pour elle. Elle eut toujours une certaine confiance en moi. Je l'aimais comme ma fille, et du vivant de ma femme, j'avais résolu de la prendre chez moi et de la sauver des mains de la vieille, dont la direction ne me promettait rien de bon. Ma femme mourut, et ce projet n'eut pas de suite. Vers la fin de notre séjour dans votre ville natale, il y a 3 ans à peine, je remarquai chez elle une tristesse visible. Je la questionnai, mais elle évita de me répondre. Enfin, nous partîmes. Elle voyageait dans la même voiture que moi, et je remarquai, ce qu'elle m'avoua bientôt après, qu'elle était enceinte et dans la plus grande appréhension d'être renvoyée par le directeur. En effet, il ne tarda pas longtemps à faire la découverte. Il congédia Marianne, dont l'engagement expirait d'ailleurs au bout de 6 semaines, et malgré toutes nos instances, il la laissa dans une mauvaise auberge d'une petite bourgade. Que le diable emporte toutes ces drôlesses !» poursuivit le vieillard avec colère. « Et particulièrement celle-là, qui m'a fait passer tant de mauvais moments. Faut-il vous dire encore longuement comme elle m'a intéressée, ce que j'ai fait pour elle, comme je m'en suis occupée, et les secourus même pendant l'absence ? J'aimerais mieux jeter mon argent dans la rivière et perdre mon temps à soigner des chiens galeux que de faire jamais la moindre attention à une pareille créature. Qu'est-il arrivé ? Au commencement, je reçus des lettres de remerciement, des nouvelles, datées de plusieurs endroits où elle séjourna. Et puis enfin, plus un mot, pas même un grand merci pour l'argent que je lui avais envoyé pendant ses couches. Oh, que la ruse et la légèreté des femmes s'accordent bien pour leur procurer une existence commode et faire passer de mauvais moments à un honnête homme. Chapitre 8. Qu'on se figure l'état de Wilhelm lorsqu'il retourna chez lui après cet entretien. Toutes ses anciennes blessures étaient rouvertes, et le sentiment que Marianne n'avait pas été tout à fait indigne de son amour s'était ranimé chez lui. En effet, dans l'intérêt que lui portait le vieillard, dans les éloges qu'il lui donnait malgré lui, se montrait de nouveau à Wilhelm toute l'amabilité de sa maîtresse. Les violentes accusations de cet homme passionné ne renfermaient-elles même rien qui pût la rabaisser aux yeux de son amant, car il se reconnaissait le complice de ses égarements. Son silence, enfin, ne lui paraissait point blâmable et faisait plutôt naître en lui de tristes pensées. Il la voyait, relevant de couches, errer sans secours dans le monde, avec un enfant dont il était probablement le père. Images qui réveillèrent chez lui le plus douloureux sentiment. Mignon l'avait attendu et l'éclaira comme il montait l'escalier. Lorsqu'elle eut posé la lumière, elle lui demanda la permission d'exécuter ce soir, devant lui, un de ses tours. Il aurait bien voulu s'excuser, surtout ne sachant pas en quoi il consisterait. Mais il ne pouvait rien refuser à cette bonne créature. Au bout d'un moment, elle rentra. Elle portait sous le bras un tapis qu'elle étendit sur le plancher. Wilhelm la laissa faire. Là-dessus, elle apporta quatre flambeaux et les plaça aux quatre coins du tapis. Un petit panier plein d'œufs, qu'elle alla prendre ensuite, rendit son intention plus claire. Ayant pris ses mesures exactement, elle allait et venait sur le tapis et y déposa les œufs à certaines distances les uns des autres. Puis elle appela un homme qui faisait quelque service dans l'auberge et qui jouait du violon. Il se plaça dans un coin avec son instrument. Mignon se banda les yeux, donna le signal, et au premier son de la musique, comme un rouage qu'on lâche, elle commença ses mouvements, accompagnant avec des castagnettes la mesure et la mélodie. Vive, rapide et légère, elle dansait avec précision. Elle s'avançait entre les œufs, d'un pas si ferme et si hardi, les effleurait de si près que l'on croyait à chaque instant qu'elle allait écraser l'un ou lancer l'autre bien loin dans ses pirouettes rapides. Point du tout, elle n'en touchait aucun, bien qu'elle parcourût les fils avec toutes sortes de pas, petits ou grands, même en sautant, et enfin presque à genoux. Régulière comme une horloge, elle poursuivait sa course, et à chaque reprise, la musique bizarre donnait un élan nouveau à la danse, toujours recommencée et impétueuse. Wilhelm fut entraîné par ce spectacle étrange. Il oubliait ses peines. Il suivait chaque mouvement de cette chère créature, surpris de voir comme son caractère se développait admirablement par cette danse. Elle se montrait grave, sévère, dure, impétueuse, et dans les poses douces, plus solennelles que gracieuses. Il éprouva soudain, en ce moment, ce qu'il avait déjà senti pour Mignon. Son ardent désir était d'adopter, comme enfant, de serrer sur son cœur cette pauvre délaissée, de la prendre dans ses bras et de réveiller en elle, avec la tendresse d'un père, la joie de la vie. La danse était finie. Mignon roula doucement avec les pieds, les œufs en un monceau, sans en laisser, sans en casser aucun, se plaça auprès, en ôtant le bandeau de ses yeux, et termina son exercice par une révérence. Wilhelm la remercia de lui avoir donné gentiment, à l'improviste, le spectacle de la danse qu'il avait souhaité de voir. Il lui caressa les joues et la plaignit d'avoir tant de peine. Là-dessus, il lui promit un habit neuf et Mignon s'écria vivement « Ta couleur !» Il le promit encore, sans savoir clairement ce qu'elle entendait par là. Elle mit les œufs dans le panier, le tapis sous son bras, demanda s'il avait encore des ordres à lui donner et s'élança hors de la chambre. Wilhelm apprit du musicien qu'elle s'était donné depuis quelque temps beaucoup de peine pour lui chanter l'air de danse qui n'était autre que le fandango, jusqu'à ce qu'il sût le jouer. Elle lui avait même offert quelque argent pour sa peine, mais il n'avait pas voulu l'accepter. Chapitre 9. Après une nuit inquiète que notre ami passa, tantôt dans l'insomnie, tantôt tourmenté par des songes pénibles, dans lesquels il voyait Marianne, d'abord dans toute sa beauté, puis avec l'aspect de l'indigence, ou bien un enfant sur les bras, enfin dépouillé de ce gage d'amour. Le jour naissait à peine que Mignon entra suivi d'un tailleur. Elle portait du drap gris et du taffetas bleu et déclara, à sa manière, qu'elle désirait une veste neuve et un pantalon à la matelote, comme elle en avait vu aux enfants de la ville, avec des parements et des rubans bleus. Depuis la perte de Marianne, Wilhelm avait renoncé à toutes les couleurs gaies. Il ne portait que du gris, le vêtement des ombres. Seulement une doublure bleue de ciel, ou un petit collet de la même couleur, animait un peu ce modeste habillement. Mignon, impatiente de porter les couleurs de Wilhelm, pressa le tailleur, qui promit de livrer bientôt son travail. Les leçons de danse et d'escrime que notre ami prit de Laerte ce jour-là allèrent médiocrement. Elles furent d'ailleurs bientôt interrompues par l'arrivée de Mélina, qui fit voir, en entrant dans de grands détails, qu'une petite troupe était maintenant réunie, avec laquelle on pourrait jouer bon nombre de pièces. Il adressa encore à Wilhelm la demande d'avancer quelques fonds pour l'établissement, et Wilhelm témoigna de nouveau son irrésolution. Là-dessus, Philine et les jeunes filles arrivèrent en riant et faisant un beau bruit. Elles avaient projeté une nouvelle promenade, car le changement de lieux et d'objets était un plaisir après lequel elle soupirait sans cesse. Dîner chaque jour dans un lieu nouveau était leur désir suprême. Cette fois, il s'agissait d'une promenade sur l'eau. Le bateau dans lequel elle voulait descendre le cours sinueux de l'agréable rivière était déjà prêt par les soins du pédant. Philine fut pressante. La société n'hésita point et l'on fut bientôt embarqué. « Qu'allons-nous faire ? » dit Philine quand tout le monde se fut placé sur les bancs. « Le plus court, repartit Laerte, serait d'improviser une pièce, que chacun prenne le rôle qui convient le mieux à son caractère, et nous verrons comment cela nous réussira. « À merveille !» dit Wilhelm. Car dans une société où l'on ne se déguise point, où chacun ne suit que son sentiment, la grâce et le plaisir ne demeurent pas longtemps, et dans celle où l'on se déguise toujours, il ne se montre jamais. Il n'est donc pas mal à propos de nous permettre d'abord le déguisement, et d'être ensuite sous le masque, aussi sincère qu'il nous plaira. « Voilà !» dit Laerte. Pourquoi l'on trouve tant de charme dans la société des femmes, qui ne se montrent jamais sous leur air naturel ? C'est, repartit Madame Mélina, qu'elles sont moins vaines que les hommes, qui s'imaginent qu'ils sont toujours assez aimables, tels que la nature les a faits. On avait vogué entre des bocages et des collines agréables, des jardins et des vignobles. Les jeunes femmes, et surtout Madame Mélina, exprimaient leur enchantement à la vue de ce beau pays. Madame Mélina commença même à déclamer solennellement un charmant poème descriptif qui roulait sur une scène pareille. Mais Philine l'interrompit et proposa une loi qui défendrait à chacun de parler d'un objet inanimé. Puis elle mit vivement à exécution le projet d'une comédie improvisée. Le vieux bourru serait un officier en retraite, Laerte un maître d'armes sans emploi, le pédant un juif. Elle-même serait une tyrolienne. Elle laissa les autres personnes se choisir leur rôle. On supposa que la société était composée de gens qui ne s'étaient jamais vus et qui venaient de se rencontrer dans le coche. Philine commença aussitôt à jouer son rôle avec le juif et cela répandit une gaieté générale. On n'avait pas fait beaucoup de chemin quand le batelier arrêta pour recevoir, avec la permission de la société, un voyageur qui était sur le bord et avait fait des signes. « C'est justement ce qu'il nous fallait !» s'écria Philine. « Il manquait à la compagnie un passe-volant !» On vit monter dans la barque un homme, bien fait, qu'à son costume et à son air respectable, on pouvait prendre pour un ecclésiastique. Il salua la société, qui lui rendit son salut à sa manière, et lui mit d'abord au fait de son amusement. Là-dessus, il prit le rôle d'un pasteur de campagne, et le remplit de la manière la plus agréable, à la grande surprise de tout le monde. Tour à tour exhortant, racontant des histoires, laissant voir quelques côtés faibles, et sachant toutefois se faire respecter. Quiconque était sorti, ne fût-ce qu'une fois, de son caractère, avait dû donner un gage. Philine les avait recueillis avec beaucoup de soin, et avait menacé particulièrement l'ecclésiastique de 1000 baisers quand il faudrait retirer les gages, bien qu'il n'eût pas été pris en faute une seule fois. Mélina, au contraire, était absolument dépouillée. Boucles, boutons de chemise, tout ce qui pouvait se détacher de sa personne avait passé dans les mains de Philine. Il avait voulu représenter un voyageur anglais et ne pouvait entrer dans son rôle. Le temps était passé de la manière la plus agréable. Chacun avait mis en œuvre toutes les ressources de son imagination et de son esprit, et habillé son rôle de plaisanteries ingénieuses et divertissantes. On arriva de la sorte dans le lieu où l'on se proposait de passer la journée, et, en se promenant avec l'ecclésiastique, nous lui laisserons la qualité que son extérieur et son rôle lui avaient fait donner. Wilhelm eut avec lui une conversation intéressante. « Je trouve, dit l'inconnu, cet exercice fort utile entre comédiens et même dans une société d'amis et de connaissances. C'est le meilleur moyen de faire sortir les hommes d'eux-mêmes et de les y ramener par un détour. Il faudrait introduire dans chaque troupe l'usage de s'exercer quelquefois de cette façon. » Et le public y gagnerait certainement si l'on jouait tous les mois une pièce non écrite, mais à laquelle les acteurs se seraient préparés dans de nombreuses répétitions. « Il ne faudrait pas, répondit Wilhelm, entendre par une pièce improvisée celle qui serait composée à l'instant même, mais celle dont le plan, l'action et la suite des scènes seraient données et l'exécution remise à l'acteur. » « Fort bien, dit l'inconnu, et précisément pour ce qui regarde l'exécution, aussitôt que les acteurs seraient une fois en verve, une telle pièce gagnerait infiniment, non pas sous le point de vue du style, car l'écrivain qui réfléchit doit polir son travail sous ce rapport, mais pour les gestes, le jeu de la physionomie, les exclamations et le reste, bref, le jeu muet à demi-mot, qui semble se perdre chez nous chaque jour. Il est sans doute des comédiens en Allemagne dont les attitudes expriment ce qu'ils pensent et ce qu'ils sentent, qui, par le silence, l'hésitation, les gestes, par de gracieuses et délicates inflexions du corps, préparent un discours et savent, par une agréable pantomime, lier avec l'ensemble les poses du dialogue. Mais un exercice qui viendrait au secours d'un heureux naturel et enseignerait à rivaliser avec le poète n'est pas aussi en usage qu'il serait à souhaiter pour le plaisir des amateurs du théâtre.
Mais un heureux naturel, répliqua Wilhelm, ne suffirait-il point comme condition première et suprême pour conduire l'acteur, ainsi que tout artiste et tout homme peut-être, à un but si élevé?
Oui, il pourrait être et demeurer la condition première et suprême, le commencement et la fin. Mais dans l'intervalle, bien des choses manqueraient peut-être à l'artiste, si l'éducation, et une éducation précoce, ne le faisait pas d'abord ce qu'il doit être. En effet, celui auquel on attribue du génie se trouve, je crois, dans une situation plus fâcheuse que l'homme qui n'a que des facultés ordinaires. Car le génie peut être faussé plus aisément et poussé beaucoup plus violemment dans une mauvaise voie.
Mais le génie ne saurait-il se sauver lui-même et guérir de ses mains les blessures qu'il s'est faites?
Nullement, ou du moins d'une manière très insuffisante. Qu'on n'imagine pas, en effet, qu'il soit possible d'effacer les premières impressions de la jeunesse. L'enfant a-t-il grandi dans une sage liberté, entouré d'objets nobles et beaux, dans la société d'hommes distingués? Ses maîtres lui ont-ils enseigné ce qu'il devait savoir d'abord, afin de comprendre le reste plus facilement? A-t-il appris ce qu'il n'aura jamais besoin de désapprendre? Ses premières actions ont-elles été dirigées de telle sorte qu'il puisse à l'avenir faire le bien avec moins d'efforts et de peines, sans avoir à se défaire d'aucune mauvaise habitude? Un tel homme passera une vie plus pure, plus complète et plus heureuse qu'un autre, qui aura consumé dans la lutte et l'erreur les forces de sa jeunesse. On parle et l'on écrit beaucoup sur l'éducation, et je vois bien peu d'hommes capables de saisir et de mettre en pratique la simple et grande idée qui embrasse tout le reste.
Cela peut bien être, dit Wilhelm, car tout homme est assez borné pour vouloir former les autres à son image. Heureux, par conséquent, ceux dont le destin se charge, lui qui forme les gens à sa manière.
Le destin, répliqua l'inconnu en souriant, est un maître excellent, mais qui fait payer cher ses leçons. Je m'en tiendrai toujours plus volontiers à la raison et aux leçons d'un homme. Le destin, dont la sagesse m'inspire un profond respect, me semble avoir dans le hasard, par le moyen duquel il agit, un serviteur très mal habile. Il est rare que l'un exécute purement et simplement ce que l'autre avait résolu.
Vous exprimez là une idée fort singulière.
Nullement. La plupart des choses qui arrivent dans le monde justifient mon opinion. Une foule d'événements n'annoncent-ils pas d'abord une grande pensée, et ne finissent-ils pas le plus souvent par quelques fadaises?
Vous voulez rire?
Et n'est-ce pas aussi ce qui arrive à chaque individu? Supposons que le destin eût appelé quelqu'un à devenir un grand comédien. Et pourquoi ne nous pourvoirait-il pas aussi de bons comédiens? Mais que, par malheur, le hasard conduisit l'enfant dans un théâtre de marionnettes, où, dès son premier âge, il ne pourrait s'empêcher de prendre goût à une chose absurde, de trouver supportable, peut-être même intéressant, un spectacle insipide, et de recevoir ainsi, par un côté faux, les impressions d'enfance qui ne s'effacent jamais, pour lesquelles nous conservons toujours un certain attachement.
Qu'est-ce qui vous amène à parler de marionnettes?
Dit tout à coup Wilhelm, un peu troublé.
Ce n'était qu'un exemple pris à l'aventure. S'il ne vous plaît pas, prenons-en un autre.
Supposons que le destin ait appelé quelqu'un à devenir un grand peintre, et qu'il plaise au hasard de confiner sa jeunesse dans de sales cabanes, des étables et des granges. Croyez-vous qu'un tel homme se puisse jamais élever à la pureté, à la noblesse, à la liberté de l'âme? Plus il a reçu dans son enfance une vive impression de ces objets impurs et les a ennoblis à sa manière, plus ils se vengeront de lui dans la suite de sa vie. Car, tandis qu'ils cherchaient à les surmonter, ils se sont identifiés avec lui de la manière la plus intime. Celui qui a vécu de bonne heure dans une société mauvaise ou insignifiante, fût-il maître d'en avoir plus tard une meilleure, regrettera toujours celle dont l'impression se mêle chez lui au souvenir des plaisirs du jeune âge, qui reviennent si rarement. On peut juger qu'un pareil entretien avait éloigné peu à peu tout le reste de la société. Philine, surtout, s'était mise à l'écart dès le commencement. On revint par un chemin détourné aux deux interlocuteurs. Philine produisit les gages qu'il fallut racheter de diverses manières. Alors, par les plus agréables inventions et une participation aisée et naturelle, l'étranger charma toute la société, et particulièrement les dames. Et, parmi les jeux, les chants, les baisers et les agaceries de tout genre, les heures s'écoulaient de la manière la plus agréable du monde. Chapitre 10. Quand la société voulut retourner à la ville, on chercha des yeux l'étranger, mais il avait disparu et l'on ne put le retrouver. « Ce n'est pas aimable, » dit Madame Mélina, « de la part d'un homme qui annonce d'ailleurs tant de savoir-vivre, de quitter sans prendre congé une société qui lui a fait un si bon accueil. » « Pendant tout le temps qu'il a passé avec nous, » dit Laerte, « j'ai cherché à me rappeler où je puis avoir vu cet homme singulier, et je me proposais justement de le questionner là-dessus au moment de le quitter. » « Mon impression a été la même, » dit Wilhelm, « et je ne l'aurais pas laissé partir avant qu'il nous eût fait quelques révélations. Je me trompe fort si je ne lui ai pas déjà parlé quelque part. » « Et vous pourriez bien vous tromper, » dit Philine. « Ce personnage a le faux air d'une ancienne connaissance, uniquement parce qu'il ressemble à un homme et non pas à un Jean ou un Paul. » « Qu'est-ce à dire ?» reprit Laerte. « Est-ce que nous ne ressemblons pas aussi à des hommes ?»« Je sais ce que je dis, » répliqua Philine, « et si vous ne me comprenez pas, n'en parlons plus. Je ne prétends pas être réduite à interpréter mes paroles. » Deux voitures étaient prêtes. On en fit compliment à Laerte qui les avait commandées. Philine prit place à côté de Madame Mélina, en face de Wilhelm, et les autres s'arrangèrent du mieux qu'ils purent. Laerte monta le cheval de Wilhelm, qu'on avait aussi amené. Philine était à peine en voiture qu'elle se mit à chanter de jolis airs et sut amener l'entretien sur des histoires auxquelles on pourrait, assurait-elle, donner avec succès la forme dramatique. En faisant, avec adresse, prendre ce tour à la conversation, elle n'avait pas tardé à mettre son jeune ami de bonne humeur. Et, de son imagination vive et féconde, il tira d'abord un drame tout entier, avec tous ses actes, scènes, intrigues et caractères. On trouva bon d'y mêler quelques ariettes et des chants. On composa les paroles, et Philine, qui se prêtait à tout, leur adapta sur le champ des mélodies connues et les chanta. Elle était dans son beau jour. Elle savait animer notre ami parmi la gasserie. Il goûtait plus de joie qu'il n'avait fait de longtemps. Depuis qu'une douloureuse découverte l'avait arraché des bras de Marianne, il était resté fidèle au vœu de fuir l'insidieuse surprise d'une caresse de femme, d'éviter le sexe perfide, de renfermer dans son sein ses douleurs, ses inclinations, ses tendres désirs. La scrupuleuse exactitude avec laquelle il observait ce vœu donnait à tout son être un secret aliment. Et, comme son cœur ne pouvait rester sans attachement, une amoureuse sympathie devenait un besoin pour lui. Il errait encore à l'aventure, comme accompagné des premières illusions de sa jeunesse. Ses regards saisissaient avec joie tout objet charmant, et jamais il n'avait jugé avec plus d'indulgence une aimable figure. Combien, dans une situation pareille, devait être dangereuse pour lui la téméraire jeune fille? C'est ce qu'il est trop facile d'imaginer. La société trouva tout préparé chez Wilhelm pour la recevoir. Les chaises rangées pour une lecture, et au milieu, la table, sur laquelle le bol de punch devait trouver sa place. Les pièces chevaleresques étaient alors dans leur nouveauté et avaient fixé l'attention et la faveur du public. Le vieux bourru en avait apporté une de ce genre et l'on avait résolu d'en faire la lecture. On prit place. Wilhelm s'empara du livre et commença. Les chevaliers bardés de fer, les vieux manoirs, la loyauté, la probité, la cordialité, mais surtout l'indépendance des personnages, furent accueillis avec une grande faveur. Le lecteur remplit sa tâche de son mieux et la société fut transportée. Entre le deuxième et le troisième acte, le punch fut servi dans un vaste bol et, comme dans la pièce même, on buvait et l'on trinquait beaucoup, il était fort naturel que la société, chaque fois que le cas se présentait, se mit vivement à la place des héros, qu'elle choqua de même les verres et porta des vivats à ses personnages favoris. Le feu du plus noble patriotisme enflammait tout le monde. Que cette société allemande trouvait de charme à goûter, conformément à son caractère et sur son propre terrain, cette jouissance poétique. Les voûtes et les caveaux, les châteaux en ruine, la mousse et les arbres creux, et par-dessus tout les scènes nocturnes des bohémiens et le tribunal secret, firent une sensation incroyable. Chacun se mit à songer comment il produirait bientôt, devant le public, sa nationalité allemande. Les acteurs, en casque et en cuirasse, les actrices, en grandes collerettes, empesées et montantes. Chacun voulut sur le champ se donner un nom tiré de la pièce ou de l'histoire d'Allemagne. Et Madame Mélina déclara que le fils ou la fille qu'elle portait dans son sein n'aurait pas d'autre nom qu'Adalbert ou Mathilde. Au cinquième acte, l'approbation fut plus vive et plus bruyante. Et, lorsqu'enfin le héros échappa des mains de son oppresseur, que le tyran fut puni, l'enthousiasme fut si grand que l'on jura qu'on n'avait jamais passé d'aussi heureux moments. Mélina, que le punch avait enflammé, était le plus bruyant. Et quand on eut vidé le second bol, à l'approche de minuit, Laerte jura haut et clair que nul homme n'était digne de porter désormais ses verres à ses lèvres. Et en faisant ce serment, il jeta derrière lui le sien à la rue, à travers les vitres. Les autres suivirent son exemple, et malgré les protestations de l'aubergiste, accouru au bruit, le bol, qui après une pareille fête ne devait pas être souillé par une boisson profane, fut lui-même brisé en mille morceaux. Tandis que les deux jeunes filles dormaient sur le canapé, dans des attitudes qui n'étaient pas d'une décence irréprochable. Philine, chez qui l'effet de la boisson était le moins visible, poussait avec malice les autres à faire tapage. Madame Mélina déclamait quelques poésies sublimes, et son mari, dont l'ivresse n'était pas fort aimable, se mit à clabauder sur ce punch mal préparé, assurant qu'il saurait, lui, ordonner une fête tout autrement. Et comme il devenait toujours plus grossier et plus bruyant, Laerte, qui l'avait invité à se taire, lui jeta, sans plus de réflexion, les débris du bol à la tête, ce qui n'augmenta pas peu le vacarme. Cependant, la garde était accourue et demandait qu'on ouvrît la porte. Wilhelm, très échauffé par la lecture, quoiqu'il eût bu modérément, eut assez de peine à l'apaiser, avec le secours de l'hôte, en distribuant de l'argent et de bonnes paroles, et à ramener chez eux les membres de la société en fâcheux état. À son retour, vaincu par le sommeil et fort mécontent, il se jeta tout habillé sur son lit, et rien ne se peut comparer à la sensation désagréable qu'il éprouva le lendemain lorsqu'il ouvrit les yeux et qu'il jeta un triste regard sur les ravages de la veille, sur le désordre et les fâcheux effets qu'avait produit un poème plein de génie, de chaleur et de nobles sentiments. Chapitre 11. Après un moment de réflexion, il fit appeler l'aubergiste et lui dit de mettre sur son compte la dépense et le dégât. Il apprit en même temps une fâcheuse nouvelle. Laerte, en revenant à la ville, avait tellement fatigué son cheval que vraisemblablement l'animal en était fourbu et que le maréchal avait peu d'espoir de le guérir. Un salut que Philine lui adressa de sa fenêtre lui rendit sa bonne humeur, et il courut dans la boutique voisine pour lui acheter un petit présent en retour du couteau de toilette. Et nous devons avouer qu'il ne se tint pas dans les limites d'un échange proportionné. Non seulement il acheta pour elle une paire de fort jolies boucles d'oreilles, mais il y joignit un chapeau, un fichu et quelques autres bagatelles qu'il lui avait vu jeter par la portière dans leur première promenade. Madame Mélina, qui vint l'observer, comme il offrait ses cadeaux, chercha avant le dîner l'occasion de lui faire de sérieuses observations sur son penchant pour cette jeune fille, et il en fut d'autant plus surpris qu'il croyait ne mériter rien moins que ses reproches. Il jura sur son âme qu'il n'avait jamais eu l'idée de s'attacher à cette personne, dont il connaissait toute la conduite. Il excusa de son mieux ses attentions et ses prévenances pour Philine, mais il ne put nullement satisfaire Madame Mélina, toujours plus offensée de voir que ses flatteries, dont notre ami l'avait récompensée par une sorte de bienveillance, ne suffisaient pas à défendre cette conquête contre les attaques d'une rivale plus vive, plus jeune et plus favorisée de la nature. Lorsqu'ils vinrent se mettre à table, ils trouvèrent le mari de très mauvaise humeur. Et déjà, il commençait à répandre sur des bagatelles quand l'aubergiste vint annoncer un joueur de harpe. « Je crois, ajouta-t-il, que sa voix et son instrument vous feront plaisir. Nul ne peut l'entendre sans l'admirer et lui donner quelque aumône. » « Qu'il passe son chemin, repartit Mélina. « Je ne suis rien moins que disposée à entendre un vielleur. D'ailleurs, nous avons parmi nous des chanteurs qui seraient heureux de gagner quelque chose. » Il accompagna ces mots d'un regard malin à l'adresse de Philine. Elle le comprit et fut prête soudain à protéger, contre la mauvaise humeur de Mélina, le chanteur annoncé. Elle se tourna du côté de Wilhelm et lui dit « Refuserons-nous d'entendre cet homme ? Ne ferons-nous rien pour nous sauver du déplorable ennui ?» Mélina se disposait à lui répondre, et la dispute serait devenue plus vive si Wilhelm n'avait salué le chanteur, qui parut à la porte et ne lui avait fait signe d'approcher. L'extérieur de cet homme étrange étonna toute la compagnie, et il avait déjà pris possession d'un siège avant que personne n'eût osé l'interroger, ni faire aucune observation. Sa tête chauve ne portait qu'une légère couronne de cheveux gris. De grands yeux bleus, pleins de douceur, brillaient sous de longs sourcils blancs. Son nez était d'une belle forme, sa longue barbe blanche ne cachait point ses lèvres gracieuses, et une grande robe brune enveloppait sa taille élancée et flottait jusqu'à ses pieds. il ne tarda pas à préluder sur sa harpe qu'il avait placée devant lui. Les agréables sons qu'il tirait de son instrument charmèrent bientôt toute la société. « Bon vieillard, » dit Philine, « on assure que vous chantez aussi. »«
Chantez-nous, » dit Wilhelm, « quelque chose qui charme l'esprit et le cœur, en même temps que les sens. L'instrument devrait se borner à soutenir la voix. Des mélodies, des passages et des tirades sans paroles me semblent des papillons ou de jolis oiseaux qui voltigent çà et là sous nos yeux, et que nous voudrions quelquefois saisir et nous approprier. Mais le chant s'élance vers le ciel comme un génie, et il invite la meilleure part de nous-mêmes à prendre l'essor avec lui. »
Le vieillard jeta les yeux sur Wilhelm, puis il les leva vers le ciel, tira quelques accords de sa harpe et commença. Son hymne célébrait la louange du chant, la félicité des chanteurs, et invitait les hommes à les honorer. Il donnait à ses vers tant de vie et de vérité qu'on eût dit qu'il les avait composés à l'instant même et pour cette occasion. Wilhelm eut peine à s'empêcher de sauter au cou du vieillard. La crainte d'exciter les éclats de rire le retint sur sa chaise, car les autres auditeurs faisaient déjà à demi-voix quelques sottes réflexions et disputaient sur la question de savoir si cet homme était un juif ou un moine. Quand on lui demanda quel était l'auteur des paroles, il ne fit aucune réponse précise. Il assura seulement qu'il savait beaucoup de chansons et que tout son désir était qu'on voulût les entendre avec plaisir. La plupart des auditeurs étaient joyeux et charmés. Mélina lui-même était devenu expansif à sa manière. Et, comme on jasait et plaisantait ensemble, le vieillard, avec une inspiration sublime, entonna la louange de la vie sociale. Il célébra par des accents flatteurs la concorde et la bienveillance. Tout à coup, son chant devint rude, sauvage et confus, pour déplorer l'odieuse dissimulation, l'aveugle haine et la dangereuse discorde. Et toutes les âmes rejetèrent avec bonheur ces importunes chaînes, lorsque, porté sur les ailes d'une entraînante mélodie, il chanta les fondateurs de la paix et le bonheur des âmes qui se retrouvent. À peine avait-il fini que Wilhelm s'écria : « Qui que tu sois, ô toi qui viens à nous comme un génie secourable avec des chants de bénédiction et de vie, reçois l'hommage de mon respect et de ma reconnaissance. Puisses-tu sentir que nous t'admirons tous et te confier à nous si tu as besoin de secours. » Le vieillard gardait le silence. Ses doigts effleurèrent d'abord les cordes de la harpe, qu'il attaqua ensuite avec plus de force, et il chanta. Qu'entends-je là dehors devant la porte? Quels accents résonnent sur le pont? Faites que ce chant retentisse à notre oreille dans la salle. » Ainsi parla le roi. Le page courut, il revint, le roi s'écria : « Faites entrer le vieillard. »
« Je vous salue, noble seigneur, je vous salue, belle dame. Quel ciel resplendissant, étoile sur étoile, qui nous dira leur nom? Dans la salle pleine de pompe et de magnificence, fermez-vous, mes yeux, ce n'est pas le moment de se réjouir et d'admirer. »
Le chanteur ferma ses paupières et fit retentir les cordes sonores. Les chevaliers regardaient devant eux hardiment et les belles baissaient les yeux. Le roi, qui goûta la chanson, voulut offrir au chanteur, pour sa récompense, une chaîne d'or.
« Ne me donne pas la chaîne d'or, donne-la au chevalier, dont le bras audacieux brise les lances ennemies. Donne-la à ton chancelier, et qu'il porte la chaîne d'or avec ses autres chaînes. Je chante comme chante l'oiseau logé sous le feuillage. Le chant qui sort de mon gosier est à lui-même une riche récompense. Mais si j'ose prier, je ferai une prière. Fais-moi servir dans le pur cristal une coupe du meilleur vin. »
Il porta la coupe à ses lèvres, il la but tout entière. Ô boisson douce et bienfaisante, ô trois fois heureuse la maison où un tel don est peu de chose. Quand vous serez dans la joie, pensez à moi et remerciez Dieu aussi vivement que je vous remercie pour ce breuvage. » Quand le chanteur, ayant fini sa chanson, prit le verre qu'on avait placé devant lui et, souriant d'un air affectueux à ses bienveillants auditeurs, le but tout entier, une satisfaction générale se répandit dans l'assemblée. On applaudit et l'on exprima le vœu que ce verre de vin pût raffermir sa santé et ses vieux membres. Il chanta encore quelques romances et il excita toujours plus d'allégresse dans la compagnie. « Vieillard, lui dit Philine, sais-tu l'air de la chanson « Le berger s'était paré pour la danse ?»«
Oui, sans doute, reprit-il, et si vous vous chargez du chant et des gestes, je vous accompagnerai. »
Philine se leva et se tint prête. Le vieillard fit entendre la mélodie et la comédienne chanta les couplets, que nous ne donnerons pas à nos lecteurs, parce qu'ils pourraient bien les trouver insipides et même indécents. Cependant, les auditeurs, qui étaient toujours plus gais, avaient encore vidé quelques bouteilles et commençaient à devenir fort bruyants. Mais, comme notre ami avait encore présent à l'esprit les suites fâcheuses de leur joie, il tâcha d'y couper court. Il glissa dans la main du vieillard une généreuse récompense. Les autres convives donnèrent aussi quelque chose. On le laissa se retirer et prendre du repos, en se promettant de jouir encore, le soir même, de son talent. Lorsqu'il fut sorti, Wilhelm dit à Philine « Je ne puis trouver, je l'avoue, à votre chanson favorite, aucun mérite poétique et moral. Mais si vous chantez jamais sur le théâtre, avec autant de naïveté, de naturel et de grâce, quelque chose de sortable, vous obtiendrez une vive et universelle approbation. »
Oui, dit-elle, il serait sans doute fort agréable de se chauffer contre la glace.
À tout prendre, dit Wilhelm, combien cet homme l'emporte sur plus d'un comédien. Avez-vous remarqué comme était juste l'expression dramatique de ses romances? Assurément, il y avait dans son chant plus de drame et de vie que dans nos roides personnages sur la scène. On serait tenté de prendre pour un récit la représentation de maintes pièces, et ces récits chantés pour une scène qui se passe sous nos yeux.
Vous êtes injuste, répliqua Laerte. Je ne me donne ni pour un grand comédien ni pour un bon chanteur, mais croyez-moi, quand la musique dirige les mouvements du corps, leur donne de la vie et leur marque en même temps la mesure, quand la déclamation et l'expression m'ont été notées par le compositeur, je suis un tout autre homme que dans le drame prosaïque, où je dois commencer par créer tout cela, trouver d'abord pour moi la mesure et la déclamation, que peut encore me faire oublier toute personne qui joue avec moi.
Tout ce que je sais, dit Mélina, c'est que cet homme l'emporte sur nous en un point, et un point capital. La force de ses talents se montre dans le profit qu'il en tire. Nous, qui serons peut-être bientôt dans l'embarras de savoir où nous trouverons à dîner, il nous décide à partager notre dîner avec lui. Avec une chansonnette, il s'est tiré de notre poche l'argent que nous pourrions employer à nous former quelque établissement. C'est un grand plaisir, sans doute, de jeter par la fenêtre l'argent avec lequel on pourrait se créer une existence à soi et aux autres. » Cette observation ne donna pas à l'entretien un tour fort agréable. Wilhelm, à qui ce reproche était adressé, répondit avec quelque vivacité. Et Mélina, qui ne se piquait pas de la plus grande politesse, finit par exposer ses griefs assez sèchement. « Voilà 15 jours, dit-il, que nous avons été voir le mobilier et la garde-robe du théâtre qui sont ici mis en gage, et nous pourrions les avoir pour une somme très modique. Vous me donnâtes alors l'espérance que vous m'avanceriez cet argent. Et je n'ai pas vu jusqu'à présent que vous ayez donné suite à la chose ou songé à prendre aucune résolution. Si vous en aviez pris une, alors, nous serions à l'œuvre aujourd'hui. Votre projet de départ, vous ne l'avez pas non plus mis encore à exécution. Et dans l'intervalle, vous ne me semblez pas avoir épargné l'argent. Il y a du moins des personnes qui savent toujours vous procurer l'occasion de le dissiper plus vite. » Ce reproche, qui n'était pas tout à fait injuste, blessa notre ami. Il répondit, en quelques mots, avec vivacité, avec violence même. Et comme la société se levait de table et se dispersait, il prit la porte, en faisant entendre assez clairement qu'il ne voulait pas rester plus longtemps avec des gens si désagréables et si ingrats. Il descendit à la hâte, fort mécontent, pour s'asseoir sur un banc de pierre qui se trouvait devant la porte de son auberge, et ne remarqua point que, moitié par gaieté, moitié par humeur, il avait bu plus qu'à l'ordinaire.